Né.
Ouellette, en direct.
En direct, avec JC.
Ouais, moi, je l'adore.
Et Patricia.
Continue dans ce sens-là, on va aller loin.
Radio X.
Ah, c'est une trame qu'on a rajoutée quand on a eu le tigre en entrevue, puis qui est restée dans nos trames. On va jaser un peu de pétrole. Vous avez certainement vu le prix de l'essence. En tout cas, si vous avez une voiture, c'est clair que vous avez remarqué qu'il y a eu quand même une augmentation assez épeurante du coût du pétrole et de l'essence à la pompe et ailleurs. Donc, petit résumé, mais on va quand même creuser le sujet avec notre prochaine invitée. On me dit que depuis le début du conflit avec l'Iran, c'est plus de 40% d'augmentation pour le baril de pétrole qui dépasse maintenant régulièrement la barre des 100 $, toutes provenances confondues. Juste aujourd'hui, de ce que j'ai compris, il y a une augmentation de 5% du baril de pétrole. Comment s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on finira par revenir à des prix, d'avant-guerre? Ou est-ce qu'on est condamné comme ça à payer une fortune pour notre essence? Bon, on va essayer de comprendre tout ça avec notre invité. Il est fellow et spécialiste en énergie au Cerium, M. Yvan Klisch, à qui on parle de temps en temps. M. Klisch, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va malgré tout?
écoutez,
vous êtes occupé?
Oui, comme analyste de l'énergie, comme passionné de l'énergie, la crise qu'on vit actuellement, je pensais jamais qu'on la verrait. Ça a été toujours le premier risque qu'on avait identifié pour l'approvisionnement pétrolier mondial, c'était la paralysie du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Puis à la fin, les décennies passent, puis on se dit, ça arrivera pas finalement.
Ouais.
Et on a regardé plutôt d'autres risques. Et puis, mon Dieu, ce premier risque qu'on avait identifié comme le plus important, le plus périlleux, il est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc, il faut se pincer un peu pour le croire.
Puis vous comprenez que c'est pour ça qu'on vous parle. Moi, je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même la difficulté à comprendre. T'sais, le régime iranien n'est pas arrivé la semaine passée. Là. C'est quelque chose qui est une menace constante depuis des décennies, facilement. J'ai quand même de la difficulté à comprendre qu'on n'avait pas de meilleur plan B que ça. Est-ce que c'est une analyse que vous faites, ça? Est-ce que vous posez ces questions-là? Comment ça se fait qu'on n'a pas déjà, je sais pas, des pipelines ailleurs? Je sais qu'il y en a déjà. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un autre plan pour sortir le pétrole de cette région-là? On a-tu des réponses à ces questions-là?
J'ai le goût de vous dire en premier lieu que votre question est excellente, parce que moi qui suis ça régulièrement depuis des décennies, c'est aussi la question que je me pose. Les Américains avaient quand même 35 000 soldats dans la région qui étaient dans différentes bases établies dans les pays du Golfe Persique. Et ça depuis les années 1980. C'est-à-dire que, comme je dis des fois la blague, ils devaient quand même pas que regarder le ciel bleu et penser à leur prochaine partie de pêche. Ils devaient donc certainement élaborer des scénarios si effectivement l'Iran utilisait sa proximité donc dans le golfe Persique pour empêcher la libre circulation des navires. Puis là, oui, je vous avoue que je m'étonne un peu du déroulement de la situation actuelle. On aurait pensé que les Américains auraient des plans beaucoup plus costauds pour empêcher la situation actuelle de se dérouler. On aurait pensé qu'ils auraient eu des plans pour que la situation peut-être se déroule, mais peut-être pour 2, 3, 4 jours, mais pas pour une troisième semaine d'affilée. Donc moi aussi, comme vous, je suis assez étonné de voir là que les choses ne se règlent pas plus rapidement. Donc vraiment, véritablement, là, ça reste aussi un mystère un peu pour moi.
Maintenant, dans la panoplie de solutions qui sont offertes, on a vu entre autres le déblocement là, de 400 millions de barils de pétrole, des réserves stratégiques, les pays qui ont mis un peu la main dans leurs réserves pour essayer d'aider le marché, de renflouer un peu les barils. Par contre, de ce que j'ai compris, on parle d'un déficit de 20 millions de barils par jour. Donc, pour 400 millions, pour quelques jours, là, t'sais, c'est pas quelque chose qui va nous soutenir pendant 2 mois. Est-ce que il reste des réserves? Est-ce qu'on pourrait rajouter 400 millions de barils? Est-ce qu'on pourrait aller piger ailleurs pour se donner une chance?
D'une part, ce que je voudrais vous dire, c'est que ces réserves-là ont justement été faites à partir des années 1970 pour parer à la situation comme celle qu'on voit présentement.
Ouais.
Donc, si les pays faisaient ça, ça coûte quand même cher. Il faut creuser des cavernes, stocker les, acheter les barils, les stocker, faire la maintenance et tout. Ben justement, c'était pour en cas d'une situation comme celle qu'on voit présentement. Donc, c'est quand même, encore une fois, ça montre, je dirais, le caractère assez exceptionnel de la situation. Donc, 400 millions de barils de pétrole, c'est quand même pas rien. C'est de loin le déblocage le plus important de l'histoire pétrolière. Le volume précédent qui était le plus important, c'était en 2022 lors de l'invasion russe de l'Ukraine. Donc là, on est à 400 millions. C'est environ 3 semaines de consommation pour l'Asie. Et pourquoi je dis l'Asie? C'est parce que les 80% des barils qui circulent à travers, qui partent du golfe Persique, donc à travers le détroit d'Ormuz, ça s'en va en Asie. Donc, ça peut couvrir en gros 3 semaines de consommation. Donc, c'est quand même pas rien. Mais c'est sûr que c'est pas une solution permanente. La solution permanente qui permettrait de régler la situation, on le sait, c'est le règlement du conflit militaire entre l'Iran et les États-Unis. C'est ça seulement qui permettrait qu'on reprenne le cours normal des choses et que le marché pétrolier soit stabilisé et donc les prix de l'essence à la station-service.
Et s'il il se termine, admettons, on discute, là, puis on apprend que le conflit est terminé, tout est réglé. Combien de temps deux questions. En fait, une question, deux volets, là. Pour combien de temps on a avant de voir le prix du pétrole baisser? Et deuxième volet, est-ce qu'on va revenir à ce qu'on avait comme prix il y a un mois?
Ben en fait, c'est une exploitation pétrolière, c'est pas comme une... C'est pas comme un interrupteur là qu'on met en marche ou qu'on éteint. Ça prend quand même beaucoup de quelques semaines avant que les sites pétroliers qui sont maintenant à l'arrêt puissent reprendre le cours normal de leur opération.
On parle d'environ 2-3 semaines. Je ne veux pas vous interrompre, mais ça, c'est sans compter ceux qui sont détruits aussi, là, qu'il faudra reconstruire. Là.
Exactement. Il y a des raffineries aussi qui ont été endommagées. Donc, pour qu'on puisse avoir un portrait plus global et s'assurer que tout soit remis comme avant, on parle vraiment de plusieurs mois. Donc, ça va aussi dépendre de l'ampleur de l'augmentation des prix et de sa durée. Et je m'explique, c'est que si effectivement les prix sont trop élevés et que ça dure trop longtemps, les gens vont moins consommer. Là. Les industries, le transport va en être affecté. Vous et moi, on va peut-être moins circuler. Ouais. On va faire un peu plus attention à nos budgets. On va vouloir consommer moins d'essence. Et comme ça va entraîner une baisse de la demande, bien là, c'est sûr que les prix aussi vont un peu fléchir. Donc, il y a cette dimension-là dont il faut tenir compte, dis-je bien. Et puis également, peut-être que aussi, on va remettre des paris de pétrole sur le marché à travers les réserves de stock stratégiques. Il y a encore la possibilité de remettre un autre 400 millions de barils de pétrole sur le marché. Donc ça, tout ça, ça va se conjuguer, puis ça va faire en sorte que les prix vont peut-être augmenter, mais moins que ce que ça aurait été le cas si on était, par exemple, dans les années 1970.
Mais un retour à de l'essence à 1,24 le litre, là, on oublie ça pour un certain temps. Là.
Ben je vois pas comment. Moi, ce que je pense, c'est qu'on n'est pas à la bonne place pour avoir une trajectoire descendante. Il va falloir qu'on change de siège, là, qu'on change de registre. Ouais. Et le registre, c'est vraiment la fin du conflit. Une fois que la fin du conflit va se matérialiser, ben là, c'est sûr que les opérateurs du marché financier vont gagner en confiance. Et puis là, ben c'est sûr que je pense que dès ce moment-là, on va voir les prix diminuer un peu. Est-ce qu'ils vont diminuer radicalement? Je ne le pense pas, mais ils vont commencer une trajectoire descendante.
Dernière question, puis on est dans l'hypothétique, mais si on avait eu au Canada ces fameux pipelines S-Ouest, si on avait une distribution, disons, plus efficace de notre ressource naturelle, parce qu'on sait que le Canada est un producteur quand même de pétrole, un gros producteur, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour les Canadiens?
Bien, en fait, il y a deux choses. Là. C'est que c'est sûr que si on avait la possibilité d'exporter davantage de pétrole dans le monde, là, à travers notamment Trans Mountain, donc à l'ouest du Canada, et à l'est, si on avait un pipeline qui pouvait aussi exporter du pétrole, notamment à partir du Québec, c'est sûr que là, on pourrait jouer un rôle beaucoup plus significatif qu'on peut le jouer présentement. En fait, le problème, le Canada est un paradoxe. C'est le quatrième, c'est quand même énorme.
C'est énorme.
Le quatrième producteur de pétrole au monde sur à peu près 200 pays. Mais on ne peut pas jouer un rôle important parce que contrairement aux États-Unis, à la Russie ou l'Arabie saoudite, on n'a pas accès facile à la mer. C'est-à-dire que nos producteurs sont confinés par la géographie. Je parle de l'Alberta. 85% de la production pétrolière est en Alberta et l'Alberta n'a qu'une seule voie d'acheminement de pipeline vers la Colombie-Britannique qui est limitée à 900 000 barils de pétrole par jour. Donc même si l'Alberta pouvait produire davantage, Ils n'ont pas le transport qui va avec, donc la capacité de l'acheminer en mer. Alors, malheureusement, dans la situation actuelle, malgré notre importance là, comme producteur, on ne peut pas vraiment jouer un rôle important. Comme on le sait, la plupart de nos exportations, plus que 95%, s'en vont aux États-Unis,
oui.
Donc à travers des pipelines. Alors, et dans le cas présent, ce qu'il faudrait faire, c'est de pouvoir le transporter vers la mer. Or, comme je l'ai mentionné, on est limité à moins d'un million de barils de pétrole par jour.
Monsieur Clich, vous ne manquerez pas de job. Merci beaucoup d'accepter de nous parler comme ça. Merci, c'est très apprécié.
Merci à vous.
Au plaisir. Yvan Clich, fellow spécialiste en énergie au Cerium, spécialiste en énergie canadienne et mondiale. C'est toujours intéressant d'y parler. Puis bon, c'est sûr que c'est pas rassurant tant que ça. J'ai bien aimé le Canada est un paradoxe pétrolier.
Oui, mais de toute façon, le pétrole, c'est fini.
Ah oui, c'est vrai.
Ils l'ont dit.
C'est vrai, ils l'ont dit dans le journal.
C'est ça.
OK, merci. Fini. OK, bon, on va à la pause. Bon, tout est beau.
En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.